Pendant toute cette semaine, à 13h30 et 20h30, Radio Escapade vous propose l'écoute des 5 épisodes de la série documentaire « La rivière en soi », réalisée par Florent Dupuis en collaboration avec Rémi Pozzo et Marianne Nicolet. « La rivière en soi » est un docu-fiction conçu à partir d'un collectage de témoignages d'habitants et d'habitantes, artistes ou passionnés des rivières, qui livrent leurs récits et points de vue autour de la présence et de la mémoire de l'eau liée aux rivières qui traversent le Grand Pic Saint-Loup. Ce podcast a été produit et diffusé dans le cadre de la Route de l'eau, un événement itinérant, culturel, écologique, scientifique et participatif autour de la présence et la mémoire de l'eau en Pic Saint-Loup. La Route de l'eau a été organisée par Lagrange Bouillon Cube du 26 septembre au 4 octobre de cette année. Épisode 4, l'eau et nous.
Notre rôle, mon rôle, c'est d'éviter la guerre de l'eau. Pour l'instant, on a réussi. Il n'y a pas eu trop de guerre. 2023 nous a montré qu'on n'en était pas loin, quand même. Mais voilà, notre rôle, c'est d'éviter ça, cette guerre de l'eau. D'écrire un document... consensuel, partagé par tous, qui sera appliqué pour que ça se passe pour le mieux avec un partage équitable qui en laisse pour tout le monde. Les milieux aquatiques, pour qu'il en reste. Hein. On aime bien tous les l'eau, ces poissons, faire du canoë. L'eau potable, il faut qu'on en boive. Et puis que l'activité économique agricole, qui est quand même essentielle pour la région, puisse perdurer. Laquelle ? Ça, c'est une autre question.
Épisode 4. L'eau et nous.
L'eau et nous.
Aujourd'hui, à l'aune du réchauffement climatique, on pourrait se poser des questions sur la pertinence de est-ce que vraiment il faut garder ces milieux ouverts ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de laisser pousser la forêt ? Ça ferait des puits de carbone, etc. Mais en fait, tout est question d'équilibre. Il n'y a pas de solution parfaite. Et il n'y a pas de solution unique, en fait. Donc, ce qu'on essaye de défendre, c'est la diversité, en fait, des habitats. Donc, des habitats ouverts, des habitats fermés, des vieilles forêts. On n'a pas beaucoup parlé des forêts, mais on a une forêt de Pinte-Salzmann sur le secteur de Saint-Guilhem-le-Désert et Peguérol-de-Buège. Là, on a un peuplement assez rare dans ce secteur-là. Donc, le Pinte-Salzmann, c'est un pin noir, donc c'est un cousin du pin noir d'Autriche notamment, qu'on a beaucoup planté au siècle dernier. Et c'est donc le pin noir de Salzmann, c'est une espèce qui est devenue très très rare. La moitié de la population française, elle est sur le secteur de Saint-Guilhem et de Peguérol-de-Buège. Donc là aussi, c'est encore un vecteur de responsabilité pour nous que de préserver ce patrimoine-là. Et ce que je voulais illustrer par cette forêt-là, c'est que voilà, on défend l'idée de maintenir les milieux ouverts, on défend aussi de maintenir la forêt. Donc en fait, on est vraiment dans un état d'esprit de maintien d'une mosaïque et d'une diversité et d'un impact moindre des activités humaines sur ces habitats présents sur nos territoires. Quoi.
L'homme, depuis le début, depuis qu'il a colonisé les espaces, les nouveaux continents, comme l'Australie ou l'Amérique, eh bien, il n'a pas arrêté de détruire son environnement. C'est-à-dire que quand il arrive en Australie, eh bien, il y a plus de la moitié des espèces mammifères qui disparaissent. Et en Amérique, c'est la même chose. C'est-à-dire que, bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je pense pas que ça va être les pouvoirs publics vont pas pouvoir régler ce problème qui dure depuis parce que c'est l'homme. Les périodes critiques, elles se renouvellent constamment et qu'elles ont touché des populations avant nous, par exemple à la préhistoire, notamment au néolithique, parce qu'il y a eu un problème de surpopulation, un problème de changement climatique également, et puis qu'on ne retrouve plus cette population au néolithique final, après on ne retrouve plus cette population. Donc c'est que les gens ont déserté les garrigues de Montpellier-Rennes pour aller ailleurs. Donc là, il y a eu un problème. C'est-à-dire que la forêt qui existait autrefois a été colonisée, etc. Elle a disparu par la présence de l'homme et aussi des animaux qui ont... Quand on vous mettait des chèvres, par exemple, dans une forêt, ça fait beaucoup de problèmes. Et le milieu s'est détruit. Et après, au bout d'un moment, ça devient l'enfer, parce qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de sol pour garder l'eau et pour la rediffuser, la retenir pour alimenter, par exemple, l'eau des grottes, qui s'est asséchée. On voit très bien que quand il n'y a plus de sol, il n'y a plus d'eau dans la grotte. Elle passe directement et donc c'est fini. Il faut que ça fasse un peu éponge, c'est-à-dire le sol est utile, les végétaux, etc., pour que ça fasse éponge et que ça tombe au goutte à goutte.
Et donc là, il y a quelque chose qu'il faut quand même réfléchir un petit peu, c'est l'occupation du sol. Parce que qu'est-ce qui envoie le plus de matière organique ? Une vieille forêt avec du bois mort ou une pâture à moutons ? Ça paraît assez trivial, mais c'est pas facile de répondre à cette question, en fait. Dans les deux cas, on a un système relativement naturel, avec très peu d'engrais et d'intrants chimiques. Quand ces faunes se sont mises en place, par exemple, j'avais lu que d'après des charbons, le plateau du Larzac, c'était une forêt d'ormes et de tilleuls. C'est un genre de forêt qui n'existe plus du tout. Aujourd'hui, c'est une pâture, une prairie à moutons avec un emboisement de buis, feu le buis maintenant, mais de chênes verts, de chênes blancs. Qu'est-ce qu'il y avait qu'il n'y a plus ? Qu'est-ce que c'était que les écosystèmes souterrains du plateau du Larzac à l'époque où il y avait une énorme forêt ? Ces faunes-là ne sont pas faites depuis le néolithique et depuis l'arrivée des moutons. Elles étaient là avant. Donc elles étaient adaptées à ce qu'il y avait avant. Quel a été l'impact de ça, du néolithique et vraiment de raser des forêts, ça on ne sait pas. En fait, la domestication, le pastoralisme et l'agriculture, ça a commencé il y a à peu près 10 000 ans dans le croissant Tigre-Euphrate.
C'est hier,
c'est vraiment très très récent. Et c'est arrivé ici après. Donc je ne saurais pas donner de date, mais on peut imaginer peut-être 8 000 ans, peut-être 6 000 ans. Donc c'est vraiment très très récent. Donc ces modifications du couvert forestier, elles sont très récentes. À l'échelle des temps géologiques évidemment, mais à l'échelle des temps biologiques aussi, c'est très très récent. Et il est étonnant ou alarmant de constater qu'il y a énormément d'espèces d'escargots décrites qui n'ont jamais été récoltées vivantes. Et on ne sait pas si on est sur des fossiles ou sur des animaux vivants.
D'ailleurs, si on peut justement déterminer l'âge de l'eau, c'est du fait de marqueurs. Et pour avoir des informations sur des eaux relativement récentes, on utilise la pollution de l'homme. On utilise la pollution de l'homme avec notamment tout ce qui va être les chlorofluorocarbones, les CFC, les SF, je ne sais plus quel est le terme exact, mais les CFC, les SFC, qui ont été rejetés dans l'atmosphère pendant des dizaines d'années. Jusqu'à la fin des années 90, où il y a eu un arrêt de ces rejets. Et du coup, on a une courbe d'augmentation de la teneur dans l'atmosphère de ces différents gaz, ce qui permet de savoir que voilà, si on a une eau qui a telle ou telle concentration, potentiellement, elle s'est infiltrée à telle ou telle époque. Et bien évidemment, il faut regarder ça avec des modèles de mélange d'eau qui permettent de dire, voilà, a priori, on est sur une eau qui est le mélange entre une eau qui s'est infiltrée, par exemple, dans les années 80, avec une eau qui est beaucoup plus récente, qui s'est infiltrée durant les derniers mois. Et avant ça, on avait bien évidemment aussi tout ce qui va être tritium lié aux essais nucléaires, jusque dans les années 60, qui ont permis de mettre dans l'atmosphère, là encore une fois, du tritium. Et donc, si on a des eaux très très pauvres en tritium, potentiellement, elles se sont infiltrées avant les années 60. Et si elles sont plus riches en tritium, potentiellement infiltrées après. Alors, il y a des collègues qui travaillent de cette façon-là. Ils vont prélever des carottes et à partir de la géochimie de différentes couches, tracer un petit peu ce qui s'est passé. On peut de cette façon mettre en évidence des pollutions au plomb, à l'étain, au temps des Romains, où il y avait des activités importantes, et retracer un petit peu les différentes périodes de l'Anthropocène, dont on parlait précédemment, justement, avec les différentes contaminations qu'il y a pu y avoir par l'homme et qui se sont retrouvées dans l'eau et puis ensuite dans les sédiments.
Il y a aussi, est-ce qu'il se retrouve les essais nucléaires aussi, dans les carottages ?
Ici ?
Oui. Je crois que c'est 92, mais je ne suis pas sûr. C'est sous Chirac. Et tu retrouves, entre les essais nucléaires qui ont été faits ici et Donc tu retrouves dans les carottages qui ont été prélevés ici et les carottages glaciers, tu retrouves les mêmes pics, que ce soit par l'humidité dans l'air, par les nuages, la pluie ou par les courants sous-marins et marins. Donc c'est normal qu'on retrouve en mémoire tôt ou tard ces pics de radiation. Mon leitmotiv, c'est de faire aimer la science aux gens et de pouvoir financer la recherche scientifique. Tu sais qu'aujourd'hui, en France, j'essaie de ne pas faire de digression, mais on préfère payer des élus, des infrastructures, à payer la recherche scientifique. On est formé à chercher de la finance. Donc je passe 9 mois de l'année à chercher de la finance.
Et les recherches, elles se sont poursuivies sur cette patiente ?
C'était l'idée, en tout cas. Parce qu'il y avait tellement de sujets à explorer, il y avait une thèse à écrire, hein, uniquement sur la partie hydrocéphalie et sur l'adaptation fascinante du cortex qui valide la thèse de la plasticité cérébrale. On aurait pu mettre en place un suivi pour voir si les fonctions cognitives n'étaient pas impactées à terme, si l'intelligence ne décroît pas avec le temps. Alors, l'autre axe de recherche découle d'un constat surprenant qu'on avait fait lors d'une lymphoscintigraphie de la patiente, pour vérifier les transferts de liquide par le drain entre le médium cérébral et le médium abdominal. Eh bien, figure-toi qu'on s'est rendu compte que la patiente avait un taux anormalement élevé de lymphe dans tout le corps, sans pour autant que cela provoque de lymphodème ou autre complication. La seule différence notable entre deux examens espacés de plusieurs années est la perte certaine de masse musculaire, sûrement pour stabiliser cette augmentation critique de la proportion de lymphe dans sa physiologie. Mais tu vois, là, on a matière à développer des protocoles pour traiter les lymphodèmes qui surviennent dans les environnements cancéreux.
Excuse-moi, je te coupe. Oui. Tu as démarré un programme de recherche à ce sujet, c'est ça ?
Non, si seulement. Les financements de recherche publique ont subi de nombreux revers ces 20 dernières années. Les programmes de recherche qui sont valorisés portent sur des protocoles d'intervention ou de techniques opératoires qui aboutissent sur du soin. Et c'est totalement normal, c'est notre vocation. Mais, comment dire, sans vouloir choquer ton auditorat, on est en train de mettre du fric dans de la recherche qui va permettre aux hôpitaux et aux cliniques de faire du gros chiffre. C'est ça la réalité. C'est un peu l'état actuel du financement de la recherche. Peut-être qu'on est aussi en train de se passer dans l'éducation nationale, j'en sais rien. Mais une recherche qui est en train de se privatiser peu à peu, il faut le dire, au profit d'acteurs privés. Et dans tout ça, bah, il n'y a plus trop de place pour la recherche fondamentale. Notre patiente, là, elle est saine.
L'enfant fleuve, oui.
Et on ne considère pas qu'il y a un intérêt médical légitime pour poursuivre des études sur des anomalies rares. Même si ça pourrait nous permettre de mettre en lumière... qui sait, des mécanismes d'adaptation ou de fonctionnement fondamentaux du corps humain qu'on ignore encore. Et c'est ça qui est regrettable. Et sans cadre de recherche clair, eh ben, on n'a aucune excuse de mener d'autres études à leur terme. Bon, et puis, tu sais, il y a cette propension dans le monde scientifique, et c'est vrai tout particulièrement dans la recherche médicale, à déshumaniser le patient. Hein, notre sujet d'étude devient un objet, en quelque sorte. Alors, on aura envie de le retenir, de faire passer plein de bilans, de prélèvements, et de tout mettre sous le microscope, hein, au sens littéral, un peu comme des scientifiques fous. Mais bon, enfin, le dossier médical reste ouvert. Hein. On garde un lien avec la patiente sur la base de cette malformation. Et puis, il n'est pas exclu qu'on ait à intervenir sur des développements futurs de sa condition physiologique. Pour son bien-être, hein, évidemment.
On a fait faire l'année dernière une grosse étude pour savoir un peu ce que le changement climatique nous réserve sur le bassin de l'Hérault. Donc les conclusions, c'est assez simple. Déjà, ce qui est factuel, donc ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, c'est qu'on a eu un réchauffement de 1,5 degré sur le bassin de l'Hérault et une diminution des débits d'étiage, donc l'été, de 20%. Et c'est à peu près la même chose qui va se passer jusqu'en 2050. Donc on va encore se réchauffer et on va encore avoir des débits qui baissent. Pour essayer de faire ressentir ce qui va se passer, en 2050, on parle du climat de l'Espagne du Sud, de l'Andalousie, voire de la Calabre en Italie. Donc on va vraiment vers des climats arides. Donc le mot, c'est aridification. hein, en français. Et c'est, je dirais, quasiment certain, puisque les scientifiques, quand ils font leur projection climatique, en 2050, tous les modèles disent la même chose. C'est au-delà qu'il y a des divergences en fonction des émissions de gaz à effet de serre, des façons de calculer, où en 2100, là, y a un peu moins de convergence. Même si ça chauffe, on sait moins comment ça chauffe. La question, c'est de savoir, en 2050, est-ce que notre karst, qui apporte de l'eau tout l'été et qui fait que on passe les étés avec du canoë et puis des usages, est-ce que ça va encore être possible en 2050? Et si c'est plus possible, comment on s'adapte? Voilà. Donc c'est actuellement les grandes questions qui se posent et donc des décisions qui vont être prises sur le partage de la ressource en eau pour les années futures, pour anticiper ces effets du changement climatique.
Donc j'avais fait un calcul, je crois que c'est 125 piscines olympiques par jour, la consommation du département de l'Hérault en période estivale. Donc c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et donc ça va avoir un vrai impact sur les écosystèmes souterrains, parce que ça va rabasser les nappes, surtout en période estivale. Donc on peut imaginer avoir un battement été-hiver naturel qui soit de quelques mètres, par exemple, et que ça corresponde à des conditions naturelles auxquelles la vie s'est adaptée depuis des millions d'années. Et puis tout d'un coup, on va passer à des dizaines de mètres, parce qu'en été, tout le monde prend des douches et tout le monde a soif. Et ça c'est un impact qui est évident, mais assez difficile à mesurer, et probablement qu'il y a des zones qui s'assèchent. Probablement qu'il y a des parties d'aquifères qui s'assèchent complètement. Nous, on pompe en profondeur, donc on ne le voit pas forcément, on a toujours de l'eau, mais probablement que sur les nappes un peu perchées, il y a des choses qui s'assèchent et qui font des milieux où la vie aquatique ne peut pas se maintenir.
Les projets d'aller prendre de l'eau dans l'arrière-pays pour l'amener sur le littoral où il y a le plus de population, surtout l'été avec le tourisme où la population augmente, hein, bien sûr, c'est des projets qui ont toujours eu lieu. Maintenant, je pense que c'est des choses qu'il faut réfléchir parce que, pareil, le karst, les sources karstiques, c'est pas des châteaux d'eau, quoi. Hein. On l'a constaté encore récemment, ce fameux Aven du Cochon dont je parlais tout à l'heure, il s'arrête à plus de 200 mètres sous la surface, à plusieurs kilomètres de l'entrée, sur un niveau noyé. Il y avait ce qu'on appelle un siphon, un endroit où il fallait plonger. Et ce siphon, quand c'était le GERSAM, donc un club spéléo de Montpellier, avait exploré la cavité dans les années 80. En 82, ils sont arrêtés sur ce siphon, c'est-à-dire qu'ils ont descendu un puits, et au fond de ce puits, la galerie était pleine d'eau. On voyait la galerie qui continuait dans l'eau, mais il fallait plonger. Et alors ils avaient envisagé de plonger, puis ils avaient eu des problèmes de météo, il a eu des orages, donc ils n'avaient pas pu faire la plongée parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Il faut porter, il y a plus de 3 heures de progression pour arriver à l'eau. On plonge, on remonte, il y a le matériel de plongée à porter. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez lourd à monter. Et ça ne s'était pas fait. Donc, suite aux colorations qui ont été faites, justement, qui ont mis en lien l'évidence, les liens avec la vis et l'allergue, on a organisé une plongée. Et les copains, donc c'est des collègues qui ont commencé à descendre une partie du matériel, à équiper des puits en cordes. Quand ils sont arrivés au terminus du GERSAM de 1982, le copain qui descend, il arrive au bout de sa corde. Et il se dit, mince, je me suis trompé de corde, j'ai pas pris une corde assez longue. Donc, on a toujours une corde de sécurité, hein, le principe. Donc, il raccorde sa corde de sécurité, il continue à descendre son puits, et il arrive en bas du puits. Et arrivé en bas du puits, toujours pas d'eau. Et là, donc, il défait son matériel, il fait signe aux collègues que les autres peuvent descendre, et il se retourne, et au lieu de trouver une galerie pleine d'eau, il trouve une galerie vide. Et avec les collègues, l'équipe avance de 70 mètres dans des galeries vides, jusqu'à tomber sur le plan d'eau. La cartographie en met en évidence que le niveau d'eau avait baissé de 16 mètres. Et quand on est revenu, nous, un mois après pour plonger, il avait encore baissé de 4 mètres par rapport à ce qu'il nous avait dit. Alors là, pareil, attention, on pourrait se dire rapidement, regardez, en 82, le niveau était là, et en l'été 2023, le niveau est descendu de presque 20 mètres. Mais dans la mesure où ce plan d'eau n'a pas été surveillé, est-ce que le fait qu'il descende de 20 mètres, c'est un phénomène exceptionnel dû à la sécheresse de 23, et ça atteste que le karst peut se vidanger, etc., comme ça n'arrive pas normalement, ou est-ce que c'est un phénomène régulier où tous les étés, ils descendent 20 mètres et ils remontent l'hiver? Ça, on ne peut pas le dire. Donc c'est pour ça que je dis, toujours, on rapporte de la connaissance, le niveau a baissé de 20 mètres. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il a baissé de 20 mètres en 2023 que depuis 1982, il n'avait jamais baissé de 20 mètres, ou est-ce qu'il ne baisse pas de 20 mètres tous les étés? Le niveau qu'on constate à un moment, il n'est pas toujours le même. Alors, est-ce que c'est un phénomène régulier ou est-ce que c'est un phénomène exceptionnel? Ça, on ne le sait pas. Mais par contre, il ne faut pas dire, voilà, on a des châteaux d'eau dans l'arrière-pays, on pourra tirer toute l'eau qu'on veut si on n'en a plus ici. Si l'aise est plus suffisante, ben, on ira piquer la Buège. Puis si la Buège n'est pas suffisante, on ira à la Vis. Et si la Vis n'est pas suffisante, on ira à la Dourbie. Bon, il y a un moment, il va falloir se calmer un petit peu et puis rationaliser un petit peu tout ça parce que la Buège, la Vis, la Dourbie, elles ne sont pas intarissables non plus, quoi. Donc c'est pas des limites, c'est comme les océans, hein. C'est pas, je veux dire, on voit bien là, il y a moins de poissons parce qu'on tape trop dedans, quoi. Donc c'est pas des limites infinies. La planète, on sait qu'elle a des capacités limitées. Ces limites, on les connaît plus ou moins. Il faut rester humble sur le fait qu'on les connaisse, puisque des fois on se rend compte qu'on les connaissait pas bien. Mais c'est sûr qu'on sait qu'aujourd'hui qu'on est dans un environnement qui est entre guillemets fini, dans le sens où il y a des limites. Et donc effectivement, sur le lait, je pense qu'on flirte avec les limites, puisqu'on est obligé de réinjecter de l'eau dans la rivière pour compenser ce qu'on pompe pour l'eau potable. Donc là, on est, voilà, la limite, on la connaît à peu près, quoi.
Bon, voilà, donc nous, on a trois risques majeurs, maintenant, dans notre région, qui sont les inondations brutales, subites, les incendies, avec le vent, la chaleur, la sécheresse, et les fameux éboulements qui peuvent arriver à tout moment, parce que beaucoup d'eau, les rochers ne tiennent plus, le gel, etc.
Sur, donc, la route,
sur la route, c'est régulier.
Souvent, il y a des pierres par terre qui se détachent. Elles ne sont pas très grosses, mais il y en a tout le temps. L'autre jour, moi, quand je suis allée chercher Anthony, je me suis arrêtée parce que pour en enlever une.
C'est pas une fixation. Ça n'arrive pas tous les jours et ça ne tombe pas sur toutes les têtes. Mais il faut l'avoir que ça peut arriver.
C'est déjà arrivé.
C'est pour ça qu'il existe des plans de prévention. Pour se préparer contre les inondations, pour se préparer contre les incendies. Bon, les éboulements, malheureusement, c'est assez imprévisible. À part de purger, on peut parler de purger des falaises.
Des grillages, ouais, des grottes, oui. Ouais, on nettoie les façades, on nettoie les falaises plutôt.
Ça a été purgé dernièrement, c'est
vrai. Oui.
Et moi, je vois vous avoir à côté qu'une fois, je reçois une alerte d'évacuation d'école, alors qu'il faisait un temps comme ça. Et on ne comprenait pas. On communique entre directeurs, on se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils nous alertaient. On n'a pas compris. Le soir, les élèves sont partis normalement, alors qu'on était en alerte rouge. Et à quelques kilomètres de là, Saint-Laurent-le-Minier, le village était sous les eaux. C'était une catastrophe monumentale. Et c'était le même jour, et nous, on avait un temps comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est très ponctuel, mais c'est très catastrophique.
C'est ce que je dis, l'eau, elle repasse toujours. Parce que ça, nous, on est au pied du rocher, donc ça, c'est un filtre. Hein.
Il y a eu quoi au bar du château?
Mais c'était ce que dit François. Hein. Quand il pleuvait fort, l'eau passait et traversait le bar. Hein.
Et oui,
mais l'eau traversait le bar.
Le bar du château.
Elle sortait au fond contre le rocher, elle traversait.
Au-dessus du bar.
Après, une crue, c'est tellement imprévisible et brutal qu'il y a toujours des failles, hein, dans le système, des choses qu'on n'a pas prévues, qui fait que malheureusement, il y a des régulièrement, il y en aura toujours des drames, parce que les inondations. Brutale méditerranéenne, il y en aura toujours. Et avec le changement climatique, elles sont amenées à, en tout cas les plus grosses, à devenir encore plus grosses.
L'idée, c'est que nous, on rencontre les maires de chaque village de l'intercommunalité.
Sophie Muckenstourne, stagiaire au service risque majeur à la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup.
Et là, par exemple, pour Saint-Jean-de-Buège, tu vas avoir les zones inondables qui sont en bleu, là. En bleu foncé, tu vois le tissu hydrographique. Quoi. Mmh. Là, ce que tu vois, c'est les passages vulnérables que nous, on a identifiés. Donc, on a fait plein de trucs avec de la cartographie qui avait déjà été faite, avec le SDIS, donc les pompiers qui sont à Vaillocaisse et tout. On a récupéré plein de couches géographiques et nous, on a replacé les points. Et l'idée, c'est d'aller voir les maires pour leur demander « Mais en fait, est-ce que c'est votre vécu du territoire ou est-ce que pas du tout, on est complètement à côté ?» Donc, on leur fait vérifier tout ça. Mmh. Là, par exemple, c'est pareil, mais pour le feu de forêt. Donc, en rouge, tu vois les zones qui sont à risque assez fort feu de forêt, quoi. Et tu vois le bâti qui est isolé, qui est entouré en rouge. Et en orange, c'est le bâti qui est diffus. Donc, en fait, c'est des zones où s'il y a un feu de forêt, si c'est pas bien débroussaillé autour, c'est vraiment les lieux à défendre et à évacuer. Quoi. Voilà, ça pareil, on leur fait valider que ce soit pas une ruine, tu vois. Pas que les pompiers aillent se déplacer à un endroit où, en fait, il n'y a pas besoin d'évacuer des gens. Et là, du coup, ce qu'on fait avec les maires, c'est le plus gros taf, c'est de localiser les enjeux importants du territoire, donc les trucs à défendre en cas de feu de forêt ou en cas de crue majeure, comme en 1907. Tu vas avoir les lieux, en fait, pareil, à évacuer ou même des endroits, en fait, où tu peux aussi stocker, entre guillemets, des choses ou évacuer des gens, si c'est plus en hauteur ou quoi. Donc là, tu vas avoir la mairie qui est là, tu vas avoir l'école qui est là. T'as tous les hébergements qui sont là en bord de cours d'eau, qui en fait sont hyper à risque, et c'est les premiers trucs que tu vas évacuer. en cas de crue majeure. Mais t'as aussi les lieux où t'as des touristes qui se garent, où tu peux du coup évaluer combien il y a de personnes dans le massif s'il y a un feu de forêt. Enfin, c'est un peu un casse-tête de se dire comment est-ce que le maire, au moment de la crise, il faut qu'il ait des informations très claires, très précises et en même temps hyper visibles, simplement, pour qu'ils prennent les bonnes décisions sur le moment. Parce que nous, en fait, on n'a aucun pouvoir décisionnaire, on est juste des techniciens et on doit leur donner les outils pratiques, en fait, pour eux en cas de crise.
On ne pourra pas contenir toutes les inondations, c'est absolument impossible. Les volumes en jeu de précipitations sont beaucoup trop énormes. Donc il faut faire ça, vivre avec, entretenir la mémoire du risque, se rappeler que c'est pas parce qu'il y a eu 20 ans sans crue qu'il n'y en aura pas.
Ces rivières sont le produit d'une énorme transformation depuis très très longtemps, hein, ça ne date pas du siècle dernier, c'est sur des millénaires de coexistence avec l'homme, et qui a amené à ce que des rivières qui étaient avec des multiples chenaux, avec des multiples méandres, on les a rectifiées, on appelle ça de la rectification, on a drainé les terres pour qu'elles soient toutes droites, et ainsi on voulait récupérer les terres adjacentes, et également rendre les rivières navigables, mais aussi on pensait que du coup le fait de canaliser les flux permettait de mieux gérer les inondations, par exemple. Sauf que quelque chose, donc ces rivières qui au départ avaient des formes complètement différentes et des processus complètement différents, parce qu'on a aussi retiré les bois des rivières également, et tout ça a mené à une simplification des milieux, et cette simplification amène à une simplification de la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il y a de moins en moins d'espèces, il y a de moins en moins d'espace pour frayer, pour les poissons, etc. Il y a plusieurs intérêts à la simplification. Ça a été d'abord, donc, pour les zones, par exemple, là, au niveau du Lamalou, par exemple, ou toute la plaine de Londres, là, toute la plaine, c'était des immenses zones humides, en fait. Hein, c'était Londres, ça vient de marécages. Et donc, en fait, toute cette plaine humide a été drainée afin de rendre exploitables les terres et aussi de pouvoir construire dessus, hein, les deux. C'était surtout, à mon avis, sur la plaine de Londres, pour, on appelait ça, assainir les terres. On appelait ça, il y a eu un grand mouvement, surtout au XVIIe, dès le XVIIe siècle, particulièrement au XVIIe siècle, d'assainissement pour exploiter les terres. Parce qu'il faut comprendre, effectivement, c'était une France rurale. Notre rapport aux terres a complètement changé, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on va concentrer, et puis on apporte des produits de maraîchage, mais il faut comprendre que les gens vivaient, c'était aussi des cultures vivrières, et donc il fallait le maximum de terres. Par exemple, les Cévennes, aujourd'hui, n'ont pas été boisées comme ça. Alors, je ne sais plus, ça fait depuis le 13e ou 14e siècle, ça n'a pas été aussi boisé qu'aujourd'hui. Enfin, c'est extrêmement boisé, les Cévennes, alors qu'avant, le moindre lopin de terre était exploité pour la ressource, pour cultiver. Et ça, c'est quelque chose, on a l'impression, waouh, les Cévennes, un espace justement qu'on a l'impression qui est sauvage, qui est vierge, en fait, pas du tout. Et d'ailleurs, on constate de partout, les terrasses, les bancelles, sont partout, les murs sont partout.
Est-ce que tu penses que l'eau, elle a une mémoire ? Est-ce qu'elle pourrait se souvenir de quelque chose qu'elle aurait oublié, qu'elle aurait à nous dire ou
Ah, je ne sais pas, parce que moi, quand je tiens une fourchette que ma grand-mère a tenue, oui, je pense à ma grand-mère, j'ai l'impression qu'elle est là, tu vois. Alors, ma foi, l'eau, sans doute, mais elle est partie donner ses mémoires ailleurs. Elle est peut-être au Brésil ou je ne sais où, là. Tu vois, bon, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas, bon, mais elle me parle en attendant.
Elle te parle en tout cas. Ouais. Il y a une rumeur en ce moment qui circule sur le village, là, je ne sais pas si tu as entendu, elle a plein de noms différents, les gens l'appellent l'enfant de la rivière.
Ah non, mais c'est mon amie. C'est mon amie, Ondine. Ah, bon, ah oui, c'est une amie d'enfance à la base.
Tu veux dire que, attends, tu la connaissais?
Ondine, oui, je la connaissais très très bien, mais ce n'était pas du tout la même fille. Là, en grandissant, c'était devenu notre... Et alors, est-ce que c'était devenu la fille de l'eau dont on parle? Je ne sais pas. J'étais dans une atmosphère assez étrange ce jour-là, fin de journée. Puis je suis rentrée chez moi, remontant une côte, tu vois, pour revenir aux Causses. C'était un peu dur. Du tour d'un chemin, je tombe sur la vieille Angèle du village.
Ouais.
On ne sort jamais, cette nana-là. On ne la voit jamais. Là, elle était assise sur une pierre.
C'est la dame un peu bizarre du village qui fait des soins.
On l'a dit un peu,
oui,
c'est ça. On l'a dit un peu sorcière, un peu magicienne. Non, mais elle fait des filtres qui ont soigné les gens, qui continuent à soigner les gens.
Ah ouais.
On vient la voir de loin. Eh bien, Angèle était là. alors que j'avais cru comprendre que vraiment jamais elle sortait. Elle roupillait, elle dormait, elle somnolait, elle faisait des bruits bizarres. Moi qui ai la trouille de cette femme-là, parce qu'on dit que...
Les enfants, ils ont peur d'elle, je crois.
Ah, les enfants, mais même moi, j'ai peur quand je passe près de chez elle. Je contourne. Eh ben, on dit que les gens, quand ils ont pris ses filtres, quand elle les a emmenés, ils deviennent bizarres, un peu fous, tu vois, enfin, un peu étranges, quoi. Là, elle était là, elle m'a pas fait peur. J'ai même eu envie de la caresser. Alors, j'ai caressé doucement son visage, un petit visage tout vieux, tout ridé. S'est réveillée. Une belle voix claire et tout ça. Et tout de suite, elle m'a dit, tu l'as vu ? Elle m'a dit, quoi, qui ? Tu l'as vu ? Elle est belle, la fille du fleuve, elle était là-bas. J'ai dit, mince, je continue à rêver ou quoi ? Et alors, bon, elle me parle d'elle, et j'ai dit, oui, je crois l'avoir vue. Et là, elle, j'ai vu qu'elle se transformait aussi. Elle avait la peau qui pâlissait, elle avait le corps qui rentrait dans la terre et tout. Mais je la regarde vraiment en face. Mais elle ressemblait à Ondine. Bah, écoute, toutes les deux, c'était quasiment plus qu'une même personne.
Tu disais qu'elle s'est la transformée aussi
écoute, c'était un jour bizarre, je me sentais. Je sais pas, j'étais dans un monde paranormal.
Il y a des pustules sur les poissons, il y en a qui ont des plaques sur le dos.
Ouais, alors
tu
là,
sais ce que c'est ça
Alors c'est les champignons, mais c'est cette année, c'est récent ça.
C'est lié à quoi ça ?
Aucune idée. Il faut qu'il y ait une étude de fait. Voilà, ou par l'OFB. L'OFB, donc, c'est l'Office de la Biodiversité, ou l'Agence de l'eau, ou la Fédération. Mais la Fédération est informée. Et donc, la Fédération est informée, mais après, il faut faire une étude scientifique poussée. Mais je pense que, notamment l'OFB, si elle ne fait pas trop d'études dessus, parce qu'elle a peur de découvrir ce qu'il ne faut pas découvrir. Mais bon, ça, c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. On connaît l'impact des microplastiques sur la mer, dans la nature. Par contre, l'impact des microplastiques sur des rivières comme le fleuve Hérault, il n'est pas étudié. C'est pas étudié. Je suis sûr que si on fait des études, on aura des surprises. Il y a forcément énormément de microplastiques, puisque tout ce qui est rejeté en amont, et tous les plastiques, on trouve des bouteilles et tout, depuis 40 ans, c'est dégradé. Et on crée des microplastiques sur les fleuves. Mais pour l'instant, les études n'en sont pas là. On s'occupe de la mer, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais je pense que l'impact des microplastiques est relativement important. Sur la faune, sur les poissons, notamment. Sur certains poissons qui doivent les absorber, comme d'autres.
Ce qu'on retrouve dans les cours d'eau, il y a des choses, franchement, les emballages, les suremballages, les sacs dans tous les sens.
Ça fait quoi, ça, dans la rivière ?
Ça fait du microplastique, du microplastique et après du nanoplastique. Donc ça se retrouve dans les micro-organismes, dans les poissons, puis après chez nous, puisque nous on mange des poissons. On a une étude en cours là. Donc on est en train de faire la cartographie, on a une étude en cours de recensement de toutes les sources de déchets. C'est pas de la pollution, c'est du déchet. Qui pourrait être mobilisé par les cours d'eau sur tout le bassin de l'Hérault, ouais. sur les 164 communes. Donc c'est de l'enquête, c'est du machin, ça.
Régulièrement, les spéléologues, on organise des dépollutions. C'est-à-dire qu'en fait, on constate une cavité qui est polluée. Le problème de cette cavité qui est polluée, c'est qu'il y a des polluants potentiels qui stagnent ici, et donc qui vont se répandre, qui se répandent en continu. Et si pour certains, par exemple, on a un fût de gasoil, le fût de gasoil, tant qu'il n'est pas percé, en fait, c'est pas gênant. Le jour où il va percer, on va retrouver la pollution. Et donc, du coup, on organise des dépollutions. Et dans ces dépollutions, il y a une sorte d'archéologie, parce qu'on retrouve des strates de matériaux. Donc, je sais que les collègues avaient fait une dépollution, justement, sur un affluent souterrain de la vallée de l'Hérault, pas loin de Saint-Martin-de-Londres. Ils avaient retrouvé des emballages plastiques qui n'étaient plus produits depuis plus de 25 ans. Et alors, je sais plus, c'était une boisson particulière, enfin, peu importe la boisson, hein. Et alors, justement, là, ce qu'on a soulevé récemment, c'est que quand on dépollue ces cavités, il y a ce qui est accessible qui est enlevé, qui est ressorti. L'idée, c'est de plus rien laisser. Mais vous avez des prolongements des cavités qui sont impénétrables, où là, des polluants ont pu être emportés. Là, c'est ce qu'on a vu récemment sur le cause de l'Ortus. Donc, qui est sur une cavité qui est sur le bassin d'alimentation du Lamalou, qui le Lamalou se jette à l'Hérault, quoi. Donc, et qui va à la mer. Donc, tout est interconnecté. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une en bas de la partie pénétrable de la cavité qui servait de dépotoir qui maintenant est nettoyé. Il y a une partie qui se prolonge qui est impénétrable par où circule l'eau. Et dans cette partie impénétrable, on voyait encore des déchets mais qui n'étaient pas accessibles, qu'on n'a pas pu aller chercher. Et il y a tous ceux qui ont été emportés plus loin. Donc là, ce qu'on a fait remonter, il y a le PTB Fleuve Hérault, donc c'est l'établissement public de bassin, qui travaille actuellement à un recensement des cavités polluées, justement, pour essayer de mesurer l'impact potentiel et puis d'envisager, en fait, de soumettre aux élus les mesures qu'il y aurait à prendre pour justement assainir et éviter que les rivières soient polluées à court, moyen ou long terme. Et donc ils avaient commencé à recenser les cavités polluées. Et au fur et à mesure qu'on les dépollue, il y avait la question qui se posait, est-ce qu'on les enlève de la liste ou est-ce qu'on les laisse? Et nous, on disait, mais non, mais il faut les laisser, parce que c'est pas parce qu'on les a dépollués aujourd'hui qu'il n'y a plus de polluants dedans, puisqu'il y a toute la partie impénétrable où on n'a pas pu aller, où il y en a forcément qui ont été emportés.
À l'heure actuelle, on arrive à, si je ne dis pas de bêtises, 780 pneus de retirés en 10 ans.
Cédric Vivien, président de l'association Partons du Bon Pied.
Bon, bah, les pneus, c'est monsieur tout le monde qui les balance en dépôt sauvage au bord des fossés, au bord des rivières. C'est aussi des anciennes décharges historiques. Hein, donc je dis historiques parce que c'est des décharges qui sont fermées à l'heure actuelle où il y a encore pas mal de déchets qui s'y trouvent. Et comme beaucoup de décharges, les anciennes décharges se trouvent près des cours d'eau, malheureusement. On a un cas de figure sur le Vigan où ils ont enfoui une ancienne décharge au bord de l'Ar, et quand il y a eu des énormes pluies cévenoles, l'eau est montée, ça a formé une crue immense, et tout est reparti dans la rivière. Voilà. Au bout de 10 ans d'association, on est un peu ras les pâquerettes, parce qu'on a des projets qu'on peut pas faire.
Ah ouais, lesquels, par exemple ?
Bah, par exemple, évacuer des épaves de voitures, qui demandent des hélitroyages, donc en hélicoptère.
Ah ouais, carrément.
Il faut découper la carcasse. Et puis l'hélico, il peut lever une tonne, pas plus quoi. Enfin les petits coucous, je parle, hein, les petits hélicoptères. Et puis un hélico, c'est 500 euros les deux minutes. Donc je vous laisse imaginer un peu ce qu'il faut comme budget pour retirer une épave. Et des épaves, il y en a 18 entre le barrage Bertrand et le pont d'Hérault. 18 carcasses de bagnoles qui ont été dépolluées à l'heure actuelle, parce qu'on a enlevé les batteries, on a enlevé les huiles, les bougies, l'essence, hein, enfin tout ce qui pouvait polluer la rivière, ça a été enlevé. Bon, maintenant, bah, il reste la carcasse, quoi. Après, la ferraille, c'est naturel, mais bon, la peinture, c'est pas trop naturel.
Et l'impact des crèmes solaires sur les rivières est aussi très important, ouais, sur les lieux de baignade. Il faut savoir que, par exemple, sur le pont de Saint-Étienne, qui est à 7 km en amont, il y a 200, 300, 400 personnes au jour qui se badigeonnent de crème solaire. Donc, est-ce que la rivière est capable d'absorber ça? Alors, forcément, comme ce n'est pas visuel, on ne s'en occupe pas trop. La pollution la plus sévère, c'est celle qui n'est pas visuelle. Celle visuelle, bon, on peut... Mais donc, c'est une pollution non visuelle, mais qui, à mon avis, a un impact sur ces algues-là, la crème solaire. C'est un impact qui n'est pas négligeable du tout. Et donc, ça aussi, c'est un combat à mener.
Et quelque chose de plus terrible encore, c'est le concept d'amnésie écologique, c'est-à-dire qu'en fait, notre système de référence écologique. En gros, là où on a grandi, on a vu des plantes, on a vu des animaux, et donc ça devient notre référence. Sauf qu'en fait, il y a de plus en plus de dégradation de cette référence. Ce qui fait que la dégradation n'est plus interrogée. Par exemple, on nous a tous raconté qu'il y avait plein d'insectes avant. Mon enfant ne verra pas ces insectes. Donc pour lui, un monde sans insectes est un monde normal. Cet état de fait, cet état de référence a été abaissé, il s'est simplifié encore une fois, il s'est appauvri. Mais pour mon enfant, il est né en 2022, les enfants de 2022 ne sauront pas ce que c'est qu'un monde avec des insectes, avec beaucoup d'insectes. On ne peut pas avoir la mémoire sur 400, 500, 600 ans. Donc ça a été perdu. Et c'est pour ça que c'est très très important, la représentation encore une fois, pour raviver des mémoires oubliées.
tu l'enfant fleuve, mais tu l'as jamais vu en vrai, l'enfant fleuve. C'est toi, tu te l'es imaginé, en fait, ça.
Oui.
Raconte-moi, comment tu la représentes.
En fait, là, c'est ses petits doigts, et là, c'est l'autre côté de ses doigts. Et là, c'est les cornes. Là, c'est les cornes. Et là, c'est pour. Parce que, en fait, si on le touche, on est mort.
Moi, j'ai un bonhomme, une cascade, une grande route avec des ponts, et ça, c'est le barrage, et là, c'est le barrage.
Vas-y, raconte-moi l'enfant fleuve, là, comment tu... Et elle a trois yeux, c'est ça? Tu l'as fait avec trois yeux?
Non, mais ça, c'est son nez, ça, c'est deux yeux.
Ah, d'accord. Et c'est quoi, le petit trait qu'on voit, là?
De quoi, le petit trait?
Ouais.
C'est ses poils.
Et toi, tu veux... Oh, bah, raconte-moi un petit peu. L'enfant fleuve, comment tu te l'as représenté, là?
C'est un monstre avec des pics de venin. Il est dans l'eau, il a six yeux, deux dents avec du sang. Il est énorme.
Il y a des pics, c'est ça?
Oui.
D'accord. Il est dans l'eau, c'est ça?
Oui, il peut tuer des ours.
Oh.
La nuit, c'est un monstre. Il a des bras en tentacules, des jambes en tentacules, des palmes. Au bout de ses palmes, il a beaucoup de griffes. Après, il a des oreilles genre...
Des nageoires.
Des nageoires, oui. Il a des grosses dents pointues. La nuit, aux bêtes sauvages, il dit « bouh !» Et après, ils rigolent parce que ça leur fait peur. Et le jour, en fait, ça devient un enfant normal. Et elle va voir sa famille, sa vraie famille. La nuit, elle dort dans une cachette dans la rivière.
Ayant bossé pas mal à l'étranger, les préoccupations... Enfin, elle est évidemment présente partout, l'eau. Et les préoccupations sont souvent les mêmes, en fait. C'est toujours une question de où est-ce qu'elle est, combien il y en a, comment on la partage.
Romain Valado, post-doctorant à l'IRD, INRA de Montpellier.
Et qu'est-ce qu'on en fait avec? Et moi, ce qui me fascine aussi, c'est... plus la question de comment on la partage et comment on la distribue. Et c'est aussi comment elle se transforme en pouvoir. Tu vois, que ce soit autour de ce qu'on sait sur l'eau ou qui est capable de la contrôler, à quel but, etc.
Quand on urbanise, quand on imperméabilise, on a l'obligation en France de compenser ce qu'on a imperméabilisé par des bassins de rétention. Donc vous avez dans beaucoup de villages plein de petits bassins de rétention qui permettent de stocker les eaux et de les relarguer après la pluie. Et sur le bassin de l'Hérault, il y a deux gros barrages, le Salagou et le barrage des Olivettes, qui est beaucoup plus petit, mais quand même un gros barrage, qui amortissent un petit peu les crues pour l'Hérault. Pas beaucoup, parce qu'ils interceptent une toute petite partie de son bassin versant. Mais localement, elles ont un effet, ces deux barrages ont un effet très local intéressant. Par contre, sur l'Hérault en lui-même, c'est 4% du bassin versant qui est intercepté. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit miraculeux.
Aujourd'hui, un industriel qui détruit la nature de manière un peu significative, par exemple, qui va affecter une population. Là, en l'occurrence, c'était une canalisation qui devait passer sur une station où il y avait des moules protégées. Donc là, il y a ces moules protégées, il ne peut pas les ignorer, il y a la loi derrière. Quand il va déposer son permis de construire, on va lui demander de prouver qu'il n'a pas détruit d'espèces protégées. Il ne peut pas garantir qu'il ne va pas en détruire, puisqu'il va passer dans la rivière avec un bulldozer, et à cet endroit-là, il y en a. Et donc forcément, il y en a quelques-unes, même si on essaye de les enlever, de les déplacer, tout ça. Donc il va se lancer dans ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Donc sa canalisation, elle ne peut pas éviter la rivière, il ne peut pas passer au-dessus, il ne peut pas passer en dessous, voilà. Il faut qu'il passe là, donc il ne peut pas éviter. Donc il va réduire, donc la première mesure de réduction, c'est de prendre ses moules et de les déplacer. Et ensuite, il va passer, on sait qu'il va y avoir des impacts résiduels, on n'aura pas tout déplacé, il y aura eu une perte d'habitat, etc. Et donc là, on va lui demander de compenser. Donc on va évaluer à peu près la somme qu'il va mettre pour améliorer l'environnement ailleurs que là où il l'a abîmé. C'est un peu ça le principe.
Et dans la pratique, la stratégie ERC, donc éviter, réduire, compenser, on oublie très, très souvent le E et le R, l'éviter, réduire. Donc on va très, très souvent directement sur la compensation. On n'est pas encore du tout dans la séquence, on appelle ça nous une séquence ERC. Donc les projets se font, sont compensés,
parfois bien compensée. Par exemple, dans Natura 2000, on a ce qu'on appelle l'évaluation des incidences Natura 2000 qui est en lien avec les projets. Donc quand on a un projet d'autoroute, il y a ce côté réglementaire. Et puis si l'autoroute traverse un site Natura 2000, on doit en plus faire une évaluation des incidences Natura 2000. Quand on peut pas le E et qu'on peut pas le R, on doit le C. Et ça peut être un frein à la réalisation de projets. À tel point que là, le préfet de l'Hérault a demandé à ce qu'à l'échelle du département, il y ait une stratégie ERC locale départementale qui soit mise en place parce que on a du mal à trouver les sites de compensation pour permettre à des projets de se faire.
On parle pas encore, mais enfin, dans certaines régions aussi, on commence à en parler de la guerre de l'eau. Mmh. Dans le monde, ça, c'est déjà présent. Mais en France, il y en a de, ça va arriver. Avec l'eau va devenir une ressource de plus en plus
convoitée,
réduite, et donc avec des arbitrages à faire entre des enjeux naturels et des enjeux économiques ou de santé, tout simplement de santé publique. Donc il va falloir au bout d'un moment faire un arbitrage entre je préserve ma rivière, je préserve l'eau potable pour les habitants ou l'eau pour l'agriculteur. Quoi. Grosso modo, ça va être ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, la rivière, on lui laisse suffisamment de place? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, les rivières ont la possibilité de s'exprimer et de vivre réellement? C'est vraiment une question même et technique et philosophique, hein, voilà, de rapport à la rivière. On voit qu'il y a de plus en plus une envie d'aller vers de la consultation, et je trouve ça formidable, et je pense qu'il faut absolument aller vers là, mais c'est pas si évident parce que effectivement, nos écosystèmes et nos paysages, notre foncier a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Et donc, du coup, c'est pas si évident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de solution miracle pour les rivières. Alors, surtout sur des grosses rivières. Sur des petites rivières, je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'agir. Notamment lorsque on est en milieu rural. Donc moi, je travaille que sur des milieux ruraux, justement, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on redonne des capacités d'agir à des cours d'eau quand il y a de l'espace pour ça. Et là, après, il y a plein de techniques, donc je pourrais t'en parler si tu veux, mais qui, elles aussi, font controverse, où tout le monde n'est pas d'accord sur comment il faudrait les restaurer. Mais en tout cas, déjà, on peut vraiment se dire les rivières ont été profondément modifiées. Les scientifiques font des propositions pour essayer de les restaurer, mais ces propositions ne font pas consensus. Et en plus, il y a une vraie différence entre les rivières de ville et les rivières rurales, les rivières où il y a des possibilités d'agir et celles qui n'en ont pas.
Bah, on voit bien que tous les aménagements qui ont été faits, par exemple, pour s'adapter au manque d'eau, on est toujours face à un manque d'eau. Enfin, là, c'est un peu binaire comme manière de voir, mais on essaye en fait on cadre un problème qui va être la pénurie d'eau d'une certaine manière, auquel en fait on apporte une réponse. Et on voit bien que la réponse en fait ne résout pas le problème de la manière dont il a été cadré en fait. Moi, l'idée, c'est de dire, attendez, revenons au problème. Et c'est là où je disais, la pénurie n'est pas qu'un problème d'eau. C'est aussi des questions d'arbitrage politique qui ont été faites à un moment donné. Donc, si vous voulez agir, en fait, ou vous adapter, il n'est pas que question, en fait, de contrôler ou de maîtriser autrement l'eau, mais il va être aussi question de se questionner sur les arbitrages qui ont été faits et quels nouveaux arbitrages on fait maintenant, quoi. Et du coup, il y a vraiment une vision un peu dualiste entre l'économique et l'environnement. Et ça, je trouve que c'est assez inquiétant, en fait. Voilà. Et moi, je pense qu'il y aurait quand même tout à gagner à mettre en débat public, quoi, ces questions-là. C'est-à-dire, ouais, effectivement, il y a aussi un manque d'eau. Hein. Enfin, je veux dire, il y a une réalité physique que je ne nie pas du tout. Mais voilà, il y a un manque d'eau. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide que nos rivières vont être asséchées parce qu'on va détourner l'eau? Est-ce qu'on décide que des prairies ne vont plus exister? Moi, je n'ai pas la réponse, mais ce que je dis, c'est qu'il faudrait un peu plus de débats collectifs sur ces arbitrages-là. Quoi.
Je pense qu'il y a des imaginaires très différents. Et je pense qu'il y a des gens qui sont convaincus que le solutionnisme technologique est une bonne chose. Mais sincèrement convaincus, en fait. Et que... on va arriver à progresser, à résoudre les problèmes à travers l'invention d'une technologie verte, etc., etc. Pourquoi ça ne change pas? Moi, je reste persuadé en tant que citoyen que c'est parce que beaucoup de gens qui ont ces pouvoirs-là ne partagent pas ont un imaginaire qui n'est pas celui de l'alternative, qui est celui de la continuation de ce qu'on a fait. Et qu'on arrivera à résoudre les problèmes à travers le paradigme technologique. Et qu'en plus, ça sert leurs intérêts personnels. Mais tu vois, comme ça peut servir les intérêts personnels d'un écolo qu'on arrive
à mettre en place des barrages Castor sur... Enfin, tu vois, tu parlais de Baptiste Morisot. Si on arrive à mettre ces exemples-là, ça sert aussi sa carrière, ça sert aussi... tu vois, donc il y a ces jeux-là. Il ne faut pas tomber, moi, je pense, dans la simplicité de l'analyse de qui bloque quoi, parce que c'est là qu'on reproduit les mêmes erreurs qu'on a fait et qu'on ne peut rien changer. En fait, il faut comprendre les nuances des gens qui ont des imaginaires et des intérêts opposés si tu veux espérer pouvoir faire avancer quelque chose. Enfin, ça, c'est mon point de vue, à nouveau, de citoyen.
Mardi 17 juin 2025. Rapport de ces dernières semaines. Chers tous, grâce au dernier dispositif d'observation mis en place et à votre aide, je viens vous faire part de la continuité des recherches de la créature de l'eau. Nous avons d'ailleurs décidé de lui donner un nom plus convenable, créature faisant davantage bête de foire ou amenant la terreur à l'esprit. Ondoa sera son appellation dorénavant. Mon dernier message faisant appel au soutien, ayant été largement diffusé, nous a permis de recevoir l'aide précieuse des personnes habitant la maison près de la rivière. Postée à l'étage, j'ai pu grandement observer et même entrer en interaction avec Ondoa. Je vous explique. Il s'agit en effet d'un être vivant dans la rivière. Nos caméras et mon observation directe montrent qu'elle passe la majeure partie du temps sous l'eau et remonte pour explorer l'environnement. Elle semble dotée du double canal de respiration, aquatique et aérien. Son visage sans nez, comme je vous le disais, laisse à la bouche faire le circuit d'air. Et de chaque côté du cou, près des oreilles, deux branchies lui permettent la respiration de l'eau. Je dis oreilles car, oui, elle ressemble en beaucoup de points à un être humain. Mais comme si son corps s'était modifié pour pouvoir vivre en milieu aquatique. Fascinant. Le travers de sa peau irisée de bleu laisse voir par transparence des tissus constitués d'une grande quantité d'eau. J'ai déposé près de la rivière des biscuits, quelques fruits et de la viande pour mieux comprendre son alimentation. Rien n'a été touché. Elle semble se nourrir de nutriments aquatiques tels que les planctons et de lumière du soleil et de la lune, ce qui explique également ses allées et venues sur la berge. Cela semble nous rappeler la biochimie source de toute vie, eau, plancton et lumière. Au cours du mois de mai, comprenant son alimentation me rassurant grandement, j'ai décidé de poster ma zone d'observation plus près. Assis sur ma chaise près de la rivière, j'ai patienté des jours et des nuits entières. Rien. Je n'ai rien pu observer. Elle ne s'est pas présentée durant tous ces jours. Pourtant, ces traces d'eau au sol aux alentours de mon poste ont bien montré qu'Ondoa, elle, m'avait localisée. C'est à ce moment que je reçus les caméras étanches que l'un de vous m'a prêtées. Disposées dans la journée même, j'ai pu observer quelques jours après des faits surprenants. Ondoa est capable de bioluminescence, c'est-à-dire capable de générer sa propre lumière. Ce phénomène est d'une beauté rare, mais indique aussi qu'elle pourrait un jour ne plus avoir à remonter à la surface pour vivre. L'une des caméras laisse voir qu'elle émet par moments des ondes d'une grande intensité. La végétation et les animaux profitant de ces ondes semblent se régénérer à son contact. Les bords de rivières internes sont par ailleurs en pleine santé. Ces ondes restaurent. C'est pour cela que nous lui avons donné le nom d'Ondoa, l'onde d'eau. Ce phénomène semble précieux pour la vie de la rivière. Ondoa semble consciente comme une humaine avec la capacité de régénération de l'eau. Ceci est une découverte majeure. Découvrir la source de sa mutation va être mon prochain axe de recherche. À ce jour, un cadeau m'est arrivé ce matin même. Allant récupérer la caméra dans l'eau, Ondoa était là, sur le bord de la berge à me regarder. Nos regards se sont croisés depuis ses grands yeux bleus verts sans cils. La lumière du soleil traversant la végétation alentour a laissé alors apparaître des rayons arc-en-ciel à travers la peau d'Ondoa. Dans cet instant défiant toutes les lois du temps, elle semblait me remercier de ses recherches. Me remercier pour notre intérêt pour l'eau, pour elle et pour la vie préservée. Il me semble que son message pour le monde est grand et précieux. Je vis cette possibilité de compréhension et d'évolution concernant l'eau et ses capacités à travers le vecteur d'Ondoa, une chance inestimable. Chers confrères et consoeurs, à la joie des découvertes à venir, amicalement, Cindy Bernard.
C'était un épisode de La Rivière en Soi, un podcast de Florent Dupuis, une création de Radio Fenestrou. La suite demain à 13h30 et 20h30.